La science CQFD, Natacha Triou.
Aujourd'hui, en route pour l'île de Pâques, Rapa Nui. La légende raconte qu'il y aurait eu par le passé une catastrophe culturelle. L'archéologie et la génétique nous en livrent un autre récit. Cette île minuscule à l'est du Pacifique est célèbre pour ses moai, ses statues spectaculaires taillées dans la roche volcanique. D'abord découverte par les Polynésiens vers 1250, puis les Européens, en 1722, l'île a connu un effondrement démographique que l'on a longtemps cherché à expliquer. Une hypothèse très répandue est celle de l'écocide culturel, du suicide écologique. La population de Rapa Nui se serait effondrée avant l'arrivée des Européens. Comment l'archéologie et la génétique ont-elles permis d'exclure cette thèse ? Île de Pâques, Rapa Nui, c'est clair. Evelyne Ayer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle et l'autrice de cette étude qui vient de paraître dans la revue Nature. Et Nicolas Coe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue et conservateur au Musée Royal d'Art et d'Histoire de Bruxelles et professeur à l'Université de Louvain. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous suivre sur X, ex Twitter, à nous poser des questions. On publie pour vous tous les jours toutes nos ressources, c'est à retrouver sur notre fil à Science CQFD. Alors, y a-t-il réellement eu une catastrophe culturelle sur l'île de Pâques ? Qu'est-ce que la génétique peut apporter aux fouilles archéologiques ? Et reste-t-il des mystères à explorer encore à Rapa Nui ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on embarque pour le Pacifique. Nous sommes en 1935, c'est notre archive du jour.
Décembre 1934, nous sommes dans l'île de Pâques depuis 5 mois. Un aviso français, le Rigaud de Genouilly, nous y a déposé. Un voilier belge, le Mercator, vient nous reprendre. La France, la Belgique, le Fonds national belge de la recherche scientifique, sur l'initiative du docteur Paul Rivet, directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro, nous ont envoyé là. À notre tour, après tant d'autres, nous venions interroger les statues de l'île de Pâques. L'île de Pâques est une des plus lointaines des terres habitées. Au cœur du Pacifique, elle dresse ses volcans éteints, déroule ses prairies sans arbres, à 4000 km de la côte américaine, à 2800 des îles polynésiennes les plus proches, à l'ouest. L'amiral hollandais Roggeveen la découvre le jour de Pâques 1722. Il entrevoit les statues colossales, dès lors, elle hante l'imagination des hommes. Les théories les plus audacieuses se font jour. L'île de Pâques serait le sommet d'un continent englouti, frère jumeau de l'Atlantide, et les grandes statues, les images divines d'un monde disparu dans la nuit de l'histoire.
Voilà une archive enregistrée en 1935 sur la RDF. On reviendra sur les théories les plus audacieuses que vos travaux ont permis de détricoter, entre autres. Pour commencer, Nicolas Coe, vous avez déjà été sur place. À quoi ressemble cette île ?
Ah, c'est une très jolie île. C'est une île volcanique comme la plupart des terres du Pacifique, hein, excepté l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ou la Papouasie qui sont des îles continentales. Là, ce sont des volcans qui sortent du fond de la mer. Ce ne sont donc pas des continents engloutis, c'est des îles qui sortent de la mer. Donc, c'est assez limité comme ressources naturelles. Mais contrairement aux autres îles du Pacifique, l'île de Pâques est couverte d'une steppe et pas d'une grande jungle. Partout ailleurs, vous avez une jungle sans faune parce qu'on est trop loin de toute terre. Mais une véritable jungle. À l'île de Pâques, c'est une grande steppe. Alors, c'est un peu l'Irlande des pays du Sud, là, comme paysage, avec tous les rochers basaltiques qui émergent. Et il y a quand même des arbres. Hein. Il n'y a plus de forêt, mais il y a des arbres, en tout cas.
On dit aussi parfois que c'est la Bretagne du Pacifique. Evelyne Ayer, vous n'avez jamais été sur cette île, mais je vous entendais. Je vous voyais sourire à l'écoute de cette archive.
Ah ben oui, parce que je crois, ben on va en parler certainement, que justement une partie des travaux qu'on a réalisés sont basés sur ce qui a été ramené de cette expédition au Musée de l'Homme. Donc je connaissais pas cette archive sonore et du coup voilà, ça me touchait de voir finalement le lien avec ces personnages du début du XXe siècle.
Alors côté population, comme Tahiti, les Marquises, la Nouvelle-Zélande ou encore Hawaï, cette île est peuplée de Polynésiens aujourd'hui, Nicolas Coe.
Il y a toujours des Polynésiens. Actuellement, ils sont évidemment chiliens depuis 1882, mais un peu plus de la moitié de la population est toujours franchement polynésienne et parle toujours la langue Rapa Nui. Ils parlent toujours le polynésien entre eux, bien entendu.
Evelyne Ayer ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est justement une des questions qui s'était posée qui a émergé d'ailleurs des gens de Rapa Nui, parce que l'étude nous qu'on a faite, la responsable de l'étude, Anna Sapfo Malaspina, qui est à l'université de Lausanne, est allée plusieurs fois à l'île de Pâques, et notamment pour discuter avec les populations locales, et elle a pu discuter avec eux aussi des questions qui préoccupaient leur communauté. Et une des questions, une des choses qui importait pour eux, c'était de montrer qu'ils étaient vraiment Rapa Nui et qu'ils descendaient des anciens Rapa Nui. Voilà.
Oui, parce qu'on parle tout le temps de l'île de Pâques, d'ailleurs de son nom, qui est issu de sa découverte en 1722. Mais au départ, il faut quand même tout de suite le rappeler, hein, les premiers habitants de cette île sont polynésiens.
Ils arrivent à Rapa Nui autour de 1250. C'est d'ailleurs fascinant parce que les peuples polynésiens, vont dans plein d'îles. C'est le moment où ils vont en Nouvelle-Zélande, etc. En l'espace de seulement 100 ans, les peuples polynésiens vont parcourir des milliers de kilomètres. Et des milliers de kilomètres visiblement en groupe suffisant parce qu'ils arrivent à s'installer dans des nouveaux lieux. On peut pas créer une nouvelle population si on arrive tout seul. Il faut être quand même un certain nombre d'individus. Donc moi je trouve ça magique, quoi, complètement fascinant, cet extraordinaire savoir de ces peuples polynésiens.
Oui, puisque l'île de Pâques, comme on l'entendait dans notre archive, Nicolas Coe, est souvent présentée comme le lieu le plus isolé du monde. C'est géographiquement vrai, mais dans les faits, c'est un peu faux.
C'est tout à fait faux. Belle archive d'ailleurs qui sort du tout premier film jamais fait sur l'île de Pâques en décembre 34, janvier 35, hein, monté par un cinéaste belge pour l'expédition franco-belge, très célèbre. Alors, et c'est bien certain qu'on a des preuves archéologiques maintenant, mais la génétique s'en mêle aussi. On a des preuves archéologiques que toutes les îles de Polynésie ne sont jamais restées en isolat et qu'il y a eu des échanges constamment. On a des échanges de matières premières, on a des échanges de produits manufacturés, parfois même sur de très grandes distances. Donc le mythe de la Terre la plus isolée du monde ne tient pas. Et ce sont des vrais marins, ce sont vraiment des marins qui préparaient de vraies expéditions pour trouver des îles et les coloniser avec leurs plantes et leurs animaux domestiques dès le départ. Donc on a là la plus grande épopée maritime de tous les temps, hein. Et ce n'ont pas des petits isolats, leur monde ce n'est pas des petites îles dans l'océan, c'est l'océan dans lequel il y a des îles, inversées.
Ah oui, non, mais c'est vraiment une des parties, je dirais, de l'épopée humaine, de l'extraordinaire aventure humaine qui est la plus fascinante par justement ce qu'elle révèle de technicité, de coopération entre les groupes humains, de réflexion, d'organisation sociale. C'est vraiment une période fascinante de l'histoire humaine.
À l'échelle d'Homo sapiens, hein, c'est une île qui est peuplée relativement tard. Que savait-on de sa population et de son évolution démographique avant votre étude, à partir justement de l'arrivée des premiers Polynésiens?
Justement, il y avait la fameuse hypothèse de l'effondrement qui disait, donc à partir d'un petit groupe qui a colonisé en 1250, la population aurait cru démographiquement jusqu'à 15 000 individus autour de 1600 pour d'un seul coup chuter environ 1000 ou 2000 individus. Et c'est ça ce qu'on appelle la théorie de l'écocide, du collapse, qui a été développée, enfin je dirais vulgarisée par Jared Diamond dans son fameux ouvrage, et qui disait que finalement les gens sur place avaient surconsommé leur environnement à tel point que finalement ils se seraient en quelque sorte auto-détruits, mais avec des descriptions de famine, voire même de cannibalisme. C'est-à-dire on est vraiment dans le sensationnalisme à la Jared Diamond comme exemple du plus grand écocide ou auto-effondrement des populations humaines.
Nicolas Coe, je vois que ça vous fait sourire vous aussi, ce collapse de Jared Diamond.
Oui, mais la première hypothèse vient d'un archéologue britannique et d'un palynologue, un spécialiste des pollens qu'on retrouve dans le sol pour étudier l'environnement, un palynologue néo-zélandais. Ils ont ensemble, Paul Bann et John Findlay, proposé cela. Alors, ils ne sont pas du tout dans l'extravagance de Jared Diamond, il faut bien reconnaître, ils sont restés dans des termes beaucoup plus simples, mais eux, leur problème, c'était il y a eu déforestation, ils ont pu montrer que quand les Polynésiens sont arrivés, il y avait une forêt dense comme ailleurs, et puis qu'à partir du milieu du XVIIe siècle, il reste des arbres isolés, des petits buissons, il s'est passé quelque chose sur cette île. Donc, ils sont partis de cette idée-là, et le deuxième point de vue qu'ils ont pris, c'est que tous les monuments paraissaient en ruine. Donc, ils se sont dit, si on met les deux ensemble, ça a l'air de coller, il s'est passé une catastrophe sur cette île, quoi. Alors, on a exagéré, parce que quand on dit que pas de forêt égale famine, ben, les agriculteurs préfèrent l'absence de forêt, faut bien reconnaître. c'est une évidence. On voit ce qui se passe en Amazonie. Puis j'ai ma collègue Caroline Paulet, qui est archéo-anthropologue au Muséum d'histoire naturelle à Bruxelles, qui a étudié pour moi toute une série de squelettes à l'île de Pâques. Et elle a étudié surtout les éléments qui permettent de reconstituer les possibilités de famine, hein, surtout par l'étude des dents, des choses comme cela. Pour montrer que, comme partout ailleurs, en tout cas, ils avaient un meilleur état sanitaire que les médiévaux de chez nous, c'est pas mal, et que, comme partout ailleurs, il peut y avoir des petites années de disette, et c'est surtout les femmes qui le payent. Bon, ça aussi, c'est assez traditionnel. Et les seules traces de cannibalisme qu'elle ait trouvées, c'est chez les enfants morts en très bas âge, ce qui est surprenant, mais simplement, ils se nourrissent du lait maternel, c'est-à-dire de protéines humaines, voilà, tout simplement. Et donc, le cannibalisme en Polynésie est également une légende, je pense.
Mais en tout cas, sur le déboisement, c'est un fait avéré, mais que s'est-il passé? Comment ce déclin a-t-il commencé?
Alors, il faut bien se rendre compte que, là aussi, on a un peu exagéré. Ces gens ne se sont pas réveillés un beau matin pour couper le dernier arbre, et puis il n'y avait plus de forêt. Forcément, c'est une image un peu stupide, hein, il faut bien reconnaître. S'il y a une disparition de la forêt, c'est un très long processus. Et on en voit des traces déjà au XIIIe siècle. Hein, il faut bien se rendre compte que c'est un très long processus, dont le point maximum apparaît vers le milieu du XVIIe siècle. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui s'affrontent, et la chose n'est pas encore réglée. Il est bien certain que maintenant qu'on avance dans les études paléoclimatiques, on voit bien que les alternances El Niño, El Niña ont posé des problèmes à partir du XIIIe siècle. Il y a eu quelques épisodes El Niña très longs, ce qui augmente la salinité de l'air, ce qui augmente la désespérance des arbres lorsqu'ils ne sont plus assez concentrés, etc. Il y a un impact humain, bien entendu, hein, on déboise aussi pour faire ses parcelles, construire ses bateaux, ses maisons, etc. Mais pas plus que dans les autres îles de Polynésie. Et l'île de Pâques est située dans une zone géographique nettement plus sensible à ces alternances El Niño et El Niña. Donc c'est une combinaison, si vous voulez, d'une position géographique, d'anomalies climatiques et évidemment de la présence humaine.
Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque où les Européens débarquent sur l'île, elle est donc bien en état de déforestation, mais le déboisement, ça ne peut pas provoquer la réaction en chaîne qu'on a longtemps prêtée au Rapa Nui.
Non, surtout que ce n'est pas un événement subi, ce n'est pas comme une guerre, une déflagration, je ne sais pas quoi. Hein. C'est un long processus. Ils ont eu un paquet de générations pour se rendre compte que la forêt s'appauvrissait.
Alors comment la thèse de l'hypothèse du suicide culturel s'est peu à peu éloignée grâce aux fouilles archéologiques? Les Moai sont-ils les témoins d'un soi-disant effondrement? Restez à l'écoute, on y vient.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Evelyne Heyer et Nicolas Co. Nous explorons Rapa Nui, l'île de Pâques, où comment son peuplement est éclairé par la génétique et les fouilles archéologiques. Alors les Moai debout, hein, ces fameuses et iconiques statues, sont tous issus de restauration, une douzaine en tout. Les premières ont été entreprises dans les années 60 et les plus récentes datent de la fin des années 80. On peut alors se demander, Nicolas Co, ce qui s'est passé sur l'île pour que ces monuments soient dans un tel état, couchés, même brisés pour certains.
Alors c'est un des points de départ de la thèse de l'écocide, hein, c'est que les monuments paraissent absolument détruits. La toute dernière statue qui a été vue debout, excepté celles qui sont dans le volcan carrière, qui ont toujours été dressées, mais qui sont enfouies dans des fosses profondes. Bon, mais la dernière statue qui a été vue debout sur un monument cultuel, c'est en 1838, c'est l'amiral Abel Aubert du Petit Thouars, le fameux amiral qui, pour le compte de Philippe d'Orléans, a annexé les Marquises, Tahiti, etc. Bon, il est passé à l'île de Pâques, mais il n'a pas trouvé ça très intéressant, la colonisation. Bon, donc il a passé son chemin. Mais c'est le tout dernier témoignage que l'on ait d'une statue debout. Donc, ces statues ont été jetées au sol, manifestement, et les monuments paraissent un paquet de cailloux où on voit apparaître des morceaux de statues, ça dans ces cailloutis. Lorsque nous avons commencé à faire des fouilles, on a commencé là, en 99 pour les musées royaux d'art et d'histoire à Bruxelles, mais avec l'aide de l'Institut archéologique allemand et certains de mes collègues français plutôt spécialisés dans les pollens ou les charbons de bois, nous avons pu montrer qu'en fait, tous ces paquets de cailloux qui donnent un aspect de ruine étaient un ajout, une surimposition. Et lorsque l'on démontait tout cela, on retrouvait les plateformes sur lesquelles on érigeait les statues tout à fait intactes, et que je sache, les ruines ne remontent pas, donc c'est quelque chose qu'on a ajouté. Et quand on regardait bien les statues, elles étaient couchées, face contre terre, elles sont dans un tuf volcanique, c'est très fragile comme matière première, et elles étaient intactes, le nez sans le moindre coup, etc. Et elles étaient soigneusement déposées parallèles les unes aux autres, ce qui n'est pas possible en cas de guerre, etc. Et donc, on s'est tout à coup rendu compte que, oui, bien sûr, il y en a quelques-unes qui sont brisées, mais beaucoup de celles qui sont brisées avec les différents fragments restés en connexion les uns avec les autres, ce qui n'est possible non pas par un choc. Imaginez que si on bascule ces statues qui ont plusieurs mètres de haut, ben, les morceaux qui se détachent se déplacent. Là, c'est resté en connexion, c'est parce que ça manque couché, la matière première résiste moins, et il y a une cassure par flexion, elle ne supporte pas son propre poids, donc il y a des fissures, si vous voulez, qui se provoquent. Mais les destructions, pour l'essentiel, s'arrêtent à cela. Et donc, on se rend compte tout à coup que ces monuments n'ont jamais été détruits, mais ils ont été démontés, ce qui est une toute autre aventure.
Oui, tout cela a été consciemment construit. Ça, c'est quelque chose que vous avez pris conscience sur le site Ao Te Liu. Liu, c'est pour cocotier, c'est donc l'Ao du cocotier. C'est là où vous avez compris que rien n'avait été détruit. Vous pouvez nous raconter cet épisode-là.
Je dois avouer que c'était des découverte un peu spectaculaire. Ce n'était pas le premier monument que je fouillais. J'avais déjà la puce à l'oreille. Mais là, en fouillant Ao Te Liu, on voyait la base d'une statue qui émergeait de tous ces cailloutis. On dessine tous ces cailloutis, on les démonte pour aller voir ce qu'il y a en dessous. Et on voit ces statues parfaitement intactes. Et notre surprise, c'est qu'elle était absolument disposée au-dessus d'un caveau funéraire qui avait été creusé dans le monument, à travers le monument, avec des belles dalles verticales. Elle servait de toiture à cela. Tout ça a été magnifiquement construit et agencé. Ce n'est pas un fait de guerre, ce n'est pas un fait de violence. C'est vraiment une stratégie pour transformer les anciens monuments en statues, en nécropole, pour y mettre les morts. Et il semble bien que les statues, à un moment donné, aient subi le même sort que les morts. On a tout à coup commencé à les inhumer, les morts dans des caveaux, les statues sous des cailloux.
Ah, c'est génial.
Je suis ravi, Kevin, d'ailleurs, vous soyez aussi enthousiaste. Donc ces statues n'ont jamais été détruites, elles ont été volontairement couchées. Pourquoi ces moai? Il y en a qui font 4 mètres de haut pour environ 10 tonnes, El Gigante de 22 mètres de long pour 200 tonnes. Pourquoi ces moai ont-ils été construits?
Alors,
ensuite, on pourra parler de pourquoi ensuite ils ont été recouchés.
Bien sûr. Mais ça, c'est propre à l'ensemble de la Polynésie. C'est ce qu'on appelle des tiki. C'est la figure idéale de l'ancêtre. Ça représente pas toujours nécessairement un ancêtre en particulier, mais c'est plutôt l'idée de l'ancêtre. Tous ces Polynésiens ont des panthéons, des divinités à qui mieux mieux. Mais toutes ces divinités confient la gestion du quotidien aux ancêtres, qui sont en fait les chefs de clan divinisés, donc c'est des dieux de second ordre, si vous voulez. Donc ces ancêtres divinisés gèrent le quotidien. Et donc chaque clan familial sera à son monument, avec ses statues. À l'île de Pâques, c'est les grandes statues. Il y avait la même chose aux îles Cook, si ce n'est que les statues étaient en bois et les missionnaires les ont brûlées. Ailleurs, c'est plutôt des stèles, dont on ne voit pas directement le côté anthropomorphe. Mais en fait, c'est la même idée qui est partagée partout. Aux Marquises, il y a des statues aussi, donc ça n'est pas propre qu'à l'île de Pâques. À l'île de Pâques, elles sont grandes parce que la matière première le permettait, c'est une matière première très spéciale. Donc c'est une relation entre les vivants et les ancêtres. Et souvent, les visiteurs sont étonnés en disant, mais pourquoi ces monuments tournent-ils le dos à la mer? On les a mis au bord de l'océan, là, on ne sait pas cultiver. Ça, c'est bien. Mais ça regarde les vivants, ça ne regarde pas les étrangers qui pourraient arriver, parce que ça intéresse les vivants.
De quand datent les anciens, les plus anciens moai sur l'île?
Alors, la plus ancienne que nous connaissions pour le moment, je ne sais pas si c'est la plus ancienne dans l'absolu, parce que c'est toujours difficile d'avoir tous les contextes, la plus ancienne que nous ayons date de la fin du XIIIe siècle, donc c'est très vieux. Très vieux pour l'île de Pâques.
Oui, c'est quasiment au moment où c'est colonisé, très peu de temps après l'arrivée des premiers Polynésiens.
Si c'était pour le moment, on hésite de nouveau un peu sur longtemps pensé au Xe, XIe siècle, au XIIe siècle peut-être, mais sur un site que nous avons fouillé avec l'Institut archéologique allemand au centre de l'île, on a des traces d'occupation confirmées par tout un bataillon de datation. Un site qui date du IXe siècle. Donc on pourrait peut-être devoir reculer le début de la colonisation de l'île de Pâques. C'est peut-être un petit peu plus ancien que Hawaï ou la Nouvelle-Zélande, qui sont les extrémités aussi de ce monde.
C'est justement sur cette redatation de la première colonisation, c'est des choses qu'on peut voir, Evelyne, d'ailleurs aussi dans les analyses génétiques.
Oui, parce que quand on regarde même l'ADN de gens présents à l'heure actuelle, l'ADN s'est fait d'une mosaïque de bouts d'ADN qu'on a reçus de nos ancêtres. Et donc, quand on compare l'ADN de deux individus, on peut retrouver s'ils ont des ancêtres commun des ancêtres génétiques et dater de quand date leur ancêtre génétique. Et le principe, c'est que si, à un moment donné, une population humaine est de faible taille démographique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'individus, eh bien là, on va avoir un plus grand nombre d'ancêtres communs. Vous, si vous regardez les gens dans un village, vous allez vite trouver un ancêtre commun entre les gens dans un village. Si vous prenez deux personnes au hasard à Paris, ça va être plus compliqué, ça va être plus ancien. Voilà. Et donc, on peut, à partir de ça, en analysant l'ADN de gens actuels, retracer quand, dans le passé, ils avaient un grand nombre d'ancêtres communs, et donc les moments où les populations étaient d'effectifs démographiques réduits. Et donc, les habitants de l'île de Pâques, dans leur génome, on retrouve bien la trace démographique du moment de la colonisation, parce qu'ils ont été, l'île a été colonisée par un nombre relativement réduit d'individus, et donc en regardant l'ADN des gens actuels, on trouve de quand date la colonisation. Avec le problème des données génétiques, on est très fort donc pour voir s'il y a eu des changements démographiques, mais nous on a des incertitudes, on n'est pas aussi précis qu'avec du carbone 14 pour de la datation, mais on a quand même des ordres de grandeur, et donc c'est vrai que les données génétiques pointent pour l'essentiel de la colonisation autour du 13e siècle vers 1250. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui ont pu arriver avant, etc. Nous, on va donner une image globale, mais pas aussi précise que les archéologues.
Oui, mais je crois qu'il n'y a pas de contradiction, parce qu'il faut bien savoir, on l'a dit tout à l'heure, que ces îles ne sont pas restées en isolat. Alors, souvent, c'est posé la question, est-ce qu'il y a eu plusieurs peuplements ? Je crois que la question ne se pose pas de cette façon-là. On peut très bien avoir eu un premier petit peuplement, et puis d'autres vagues qui arrivent plus tard, parce que ce monde reste en contact avec les autres îles. Donc, je ne connais pas la vérité, je n'ai pas de solution, mais il y a toutes sortes de cas de figure tout à fait pensables. Hein. Et en tout cas, l'idée de plusieurs peuplements ne se posait que parce qu'on considérait que dès qu'on y arrive, on reste en autarcie, ce qui est faux. Oui. Voilà, ça c'est clair.
Je reviens à nos Moai, à ces représentations d'ancêtres, ces statues. Quelles sont les interprétations de pourquoi d'un coup ces statues, on les couche volontairement au sol ?
Je pense qu'il y a eu un problème de relation avec les ancêtres, justement. Alors, est-ce que c'est lié au déboisement qui lui a été très progressif, mais qui arrive à son maximum vers le milieu du XVIIe siècle, époque où on suppose pour le moins qu'un certain nombre de données, que c'est l'époque où on commence à démonter les statues, mais c'est un processus qui va être très long. Là, on a des preuves, là aussi, par les datations, c'est un processus qui va durer un siècle. Hein. C'est pas quelque chose de banal, c'est pas un moment subi, c'est pas de révolution immédiate, c'est un siècle de processus. Quand les premiers visiteurs européens arrivent à l'île de Pâques, ils voient déjà des statues couchées, d'autres encore debout. Le dernier qui en voit une debout, c'est en 1838, donc imaginez que ça fait un peu plus d'un siècle de processus, c'est très intéressant. Donc, il s'est passé quelque chose, mais de très lent. Hein. Manifestement, les ancêtres ont reçu leur congé. L'hypothèse que j'ai pour le moment, mais qui doit encore être vraiment vérifiée, c'est qu'on voit en même temps un développement agricole sur l'île de Pâques. On voit le développement des champs, des parcelles cultivées. Donc il y a peut-être eu un développement démographique, à l'inverse de ce qu'on prétend. Hein. Et que, comme partout, lorsque le stock démographique augmente, il faut trouver une autre gestion qu'un monde parcellé dirigé par ses ancêtres. Quand c'est des ancêtres, chaque famille a ses ancêtres. Mais s'il faut quelque chose de plus global, on va aller rechercher les divinités du vieux Panthéon et on les réactive. Et c'est ce qu'on voit à l'île de Pâques, parce qu'il y a une divinité qui est réappelée, le dieu Makemake. Et c'est très célèbre, puisqu'on connaît le concours de l'homme-oiseau, etc. Et ça date de cette époque-là. Donc on voit bien qu'il y a une balance entre le vieux fond divin qui a créé le monde et les ancêtres. Et les ancêtres, on les détruit pas, c'est dangereux, ça a été actif pendant des siècles, c'est important, donc on les inhume, on les empêche d'agir, on leur enlève les yeux incrustés, on les met sous des cailloux, on les casse pas. Et on réactive les dieux, on leur demande de reprendre la gestion du monde.
Une autre fable qui est très utilisée aussi dans la thèse de l'écocide sur l'île de Pâques, c'est, d'ailleurs c'est un mystère qui n'en est plus du tout un, c'est celui du transport des statues. Tel transport n'a jamais existé.
À mon idée, non. Et là, de nouveau, c'est pas une théorie, ce sont des faits que j'ai collectés pendant plus de 20 ans. Donc, on est toujours parti de l'idée du premier explorateur qui a fait des théories sur l'île de Pâques. Dans les années 1880, c'était un États-Unien qui était militaire, mais qui avait une mission de Smithsonian Institution à Washington, et qui a collecté, qui a ramené d'ailleurs des statues à Washington, deux statues. Lui, il a dit, je les vois là, dans le volcan carrière, il y a encore toutes sortes d'ébauches, il y a des statues terminées, était prêt à partir, donc forcément c'est ça qu'on transportait. C'est oublié évidemment que les statues qui sont encore dans le volcan Carrière sont démesurées, certaines font plus de 12 mètres de haut, il n'y en a pas une seule dans l'île de Pâques qui atteint une telle dimension. Elles n'ont pas le même type, c'est pas le même visage, c'est pas les mêmes proportions, donc c'est un peu comme si vous compariez une maison aujourd'hui en vous disant comment ont-ils transporté ça pour faire ce camping rempli de caravanes, quoi. Hein, c'est un peu le problème. Mais tout le monde est un peu resté figé sur cette idée, et lorsqu'on a fait des fouilles sur différents monuments à statues dispersés sur l'île, nous avons chaque fois retrouvé des couches importantes de poussière de tuf, la matière dont on fait ces grandes statues. Ça veut dire que ces gens transportaient des blocs comme partout dans le monde. Ça dit qu'il peut être griffé, qu'il peut être un peu ébréché, ça pose pas beaucoup de problèmes, et on sculpte sur place, bien entendu.
Alors comment, qu'est devenue la population qui a construit l'architecture de l'île ? Y a-t-il eu un effondrement de la population avant l'arrivée des premiers Européens ? 15 restes humains ont donc été génétiquement étudiés. Que nous raconte cet ADN ancien ? Restez à l'écoute, on y vient.
En una isla desierta, si estás tú sería mi mejor fiesta. Tú me traes loco bailando mientras el sol se acuesta. De trago perdimos la cuenta, ojalá y estés dispuesta. El mejor, mi amor, dicen que las palabras se las lleva el viento y por eso es que yo quiero demostrarte que solo yo puedo amarte y nadie va a poder hacerte lo mejor. Solo se ama una vez, por eso insisto esta vez.
Isla Desierta de Ozuna, en direct sur France Culture, car nous explorons cette île dans le Pacifique, l'île de Pâques, en compagnie de nos deux invités, Evelyne Ayer, professeur d'anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle, Nicolas Coe, archéologue et conservateur au Musée Royal d'Art et d'Histoire de Bruxelles, professeur à l'Université de Louvain. Depuis une vingtaine d'années, toute une série de publications est sortie, supportant le fait que l'île aurait subi un suicide culturel dû à une crise écologique. On poursuit avec notre seconde archive du jour.
Le soleil allait tomber. Nous rêvions et à l'aube, d'un seul coup, nous aperçûmes cette petite tache qu'il ne faut pas rater, car c'était 4000 km minimum de toute Terre. C'est une île, vous voyez, petite, de 16 km de long, et la voilà. Divine, avec ce monde que nous allons chercher, ce monde qu'on a appelé le monde des géants, qui est peut-être du reste un monde beaucoup plus grave que ce nom. Vous voyez, un désert, l'île de Pâques est ravagée par le vent sans arrêt, il n'y a pas d'arbres, la brume, c'est, si vous voulez, la Bretagne de la Polynésie, c'est peut-être du reste son charme, c'est son inquiétude, et partout, ces statues, pour qui vont essayer de nous livrer le secret, car vous voyez qu'elles ont tous la bouche fermée. Dans l'ésotérisme ancien de l'île de Pâques, ces statues ne devaient plus jamais parler au monde. Mais leurs yeux regardaient les étoiles, car la traduction de l'île de Pâques, l'île de Pâques c'est un nom donné, vous voyez, au moment d'une certaine conquête, c'est Matakiterani, des yeux regardent les étoiles. L'île de Pâques appartient aux moutons, il y en a 47 000, aux chevaux, il n'y a pas d'eau, vous voyez, même les hommes en souffrent, bien évidemment, et les animaux en mer. Alors, c'est inutile d'insister là-dessus. Il y a 800 hommes à l'île de Pâques qui sont dans une position dramatique. En tout cas, des hommes que j'aimerais toute ma vie, car ils m'ont apporté une extraordinaire délicatesse et une compréhension des choses. Eh bien, nous partons avec ces hommes à cheval, voilà notre vie. Vous voyez, c'est un terrain, moi je l'appelle la terre de la lune. Au fond, l'île de Pâques, c'est ça. Pas d'arbres, des rochers partout et le bruit du vent.
La voix de Francis Mazière, l'explorateur, et l'île de Pâques en 1965 sur la RTF. Evelyne Ayer, c'est à ses habitants que vous aussi vous êtes intéressée. Avec cette étude parue dans la revue Nature il y a quelques semaines, 15 restes humains ont donc été génétiquement étudiés. Déjà, pour commencer, d'où viennent ces restes ?
Ah, alors ces restes, ils viennent de deux expéditions. Une au 19e siècle menée par Pinard. Et pour de vrai, hein, c'est pas avec un
Alphonse.
T. à la fin, Alphonse Pinard, qui finalement était quelqu'un qui avait de l'argent et qui a monté des expéditions pour aller explorer l'Amérique, l'Océanie, et qui était à la fois ethnologue, linguiste, et qui a notamment monté des expéditions où il est allé à l'île de Pâques, et où il a ramené quelques restes humains dans les collections du musée d'ethnographie du Trocadéro, qui est l'ancêtre du musée de l'homme. Donc il a ramené des objets et aussi des squelettes. Et après, il y a eu la fameuse expédition, nous, qu'on dit métro, donc qui est dans les années 1935 de mémoire, et qui a ramené aussi d'autres restes humains, parce que c'est une époque où finalement les scientifiques voulaient étudier la diversité de l'espèce humaine, et un des outils qui était utilisé pour la biologie, c'était d'utiliser les restes humains pour faire des mesures, pour explorer cette diversité. Et il se trouve que depuis 10 ou 20 ans, on peut, à partir de ces collections, extraire l'ADN de ces restes humains. Alors, dans le cas de l'île de Pâques, donc c'est des restes qui ont été collectés au 19e, au début 20e, et qui ont environ 200 ans. C'est-à-dire, ils étaient enterrés, c'était dans des sépultures à l'île de Pâques. Ils n'ont pas tué des gens pour ramener des restes humains, mais ils ont pris des restes humains qui étaient dans les sépultures, avec, d'après les récits de Monsieur Pinard, des échanges de troc, de tabac contre des restes humains, qui avaient l'air d'être faits avec l'accord des populations locales à cette époque-là. Bon, c'est assez compliqué cette notion d'accord dans le cadre de rapports de domination, donc on va pas aller dans le détail de ça, mais toujours est-il que ces restes humains, maintenant, avec les outils actuel de ce qu'on appelle l'ADN ancien, on peut extraire l'ADN de ces restes humains et à partir de là, on peut explorer des questions intéressantes.
Alors justement, pour explorer ces questions intéressantes, pour en extraire de l'ADN ancien, comment concrètement se font ces analyses à partir de ces restes ?
Alors vous prenez soit une dent, soit un bout d'os. On aime bien ce qu'on appelle l'os pétreux, je ne rentrerai pas dans le détail. Mais néanmoins, donc ce que vous faites, vous faites de la poudre de ça, un tout petit peu, vous prélevez très très peu. Maintenant on prélève très peu. On fait de la poudre et après on fait des réactions physico-chimiques pour en extraire l'ADN. Là, on a un paquet de mélanges d'ADN qu'on va multiplier par des techniques dites de PCR, qui permettent de multiplier l'ADN. Et donc là, on multiplie tout l'ADN. Mais dedans, on a de l'ADN des restes osseux, mais on a aussi plein d'ADN de bactéries, etc. Donc après, il faut trier le bon ADN du mauvais ADN. Maintenant, on le fait avec des outils de bioinformatique. Et le bon ADN humain, après, nous permet d'avoir une partie ou la totalité du génome, donc de l'ensemble de l'ADN d'un individu qui vivait dans le passé.
Parce que, en premier lieu, la première chose, c'est d'abord de vérifier que ces 15 génomes anciens sont bien ceux de Rapa Nui.
C'est ça. Alors du coup, la première chose, ça a été de comparer avec des échantillons d'ADN moderne, donc de gens qui vivent à l'heure actuelle dans Rapa Nui, pour vraiment valider la provenance. Parce que pour des collections qui datent du 19e siècle, il y a pu y avoir des erreurs d'étiquetage, des erreurs de classement. Ils sont étiquetés Rapa Nui, mais le sont-ils vraiment ? Donc ça, c'est toujours la première étape, et qui, dans ce cas-là, marche dans les deux sens. Ça permet aux gens actuels de montrer qu'ils sont bien descendants de ces gens-là, et de montrer que les restes osseux sont bien les ancêtres des gens sur place. Et ça fait partie des grandes questions qu'avaient justement les habitants de Rapa Nui, que sont allés voir les responsables de l'équipe de l'Université de Lausanne.
Voilà, grâce à la génétique, on peut reconstituer l'histoire démographique des populations à partir de l'ADN.
Oui, alors l'idée là, on avait plusieurs grandes questions. Donc il y avait la question bien sûr de l'effondrement, et donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de retracer s'il y a des moments dans l'histoire de la population où il y a eu des diminutions démographiques significatives de taille de population. On en trouve un, forcément, qui est au moment de la colonisation. au moment de la colonisation, il y a peu d'individus qui arrivent. Et après ça, on regarde s'il y en a un deuxième. Alors, la technique, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de voir si les ancêtres communs génétiques des individus datent d'un même moment. Dans ce cas-là, ça signifie qu'il y a eu une décroissance de population à ce moment-là. Et on valide en faisant ce qu'on appelle des simulations, c'est-à-dire on simule des histoires de population avec des gens qui transmettent leur ADN et on regarde quel est le scénario qui colle le mieux avec nos données génétiques. Et là, le résultat est sans appel. Il n'y a pas eu d'effondrement démographique au XVIIe siècle. Donc la population de l'île de Pâques a toujours été une population en légère croissance démographique. L'effondrement démographique, c'est au XIXe siècle, quand les Rapa Nui sont mis en esclavage ou quand ils meurent à cause des maladies amenées par les Européens.
Nicolas Coe.
Oui, mais je suis très heureux de ce genre de résultats. Moi, je n'avais pas des données aussi pertinentes sur la démographie, puisque j'ai juste les données archéologiques. Mais il est bien clair que ça corrobore parfaitement ce que nous trouvons dans l'archéologie, où au XVIIe, au lieu de voir des guerres, des destructions, on voit la nécessité d'une main-d'œuvre importante pour démonter consciemment ces monuments. Et c'est d'autant plus important que nous avons pu montrer dans nos fouilles que ces monuments ne sont pas démontés en quelques jours. Ça peut durer des décennies pour démonter un monument. On voit d'abord qu'il y a un abandon, et on voit l'abandon parce qu'il n'y a plus d'entretien du monument, et on voit des ruissellements naturels qui commencent à couvrir le bas du monument. Et puis on voit qu'on prélève certains galets, on les a emportés, on ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est systématique. Et puis on voit qu'on couche les statues, puis à nouveau une phase d'abandon, et puis on vient déposer de la poussière de scories rouges, et ainsi de suite. Donc il y a toutes sortes de procédures. Manifestement, on ne pouvait pas abandonner un monument d'une façon tout à fait élémentaire. Et alors, imaginez la collecte de tous ces cailloux qui vont permettre ces galets de recouvrir le tout. Donc c'est un travail énorme. Hein. Donc on avait vraiment une autre idée qu'un effondrement.
Résultat de vos travaux, pas d'effondrement de la population avant que les Européens arrivent. Et autre enseignement majeur de votre étude, Evelyne Ayer, le métissage.
Ah oui, alors ça c'est super comme truc. Parce que en fait, on montre que dans ces génomes anciens, donc on va dire dans ces 15 individus, on voit des traces dans leur ADN de population amérindienne. Et assez élevé, jusqu'à 10%. Et du coup, ça présente deux intérêts. Ça présente d'abord l'intérêt de redémontrer qu'il y a eu des mélanges avec les Amérindiens. Il y a déjà d'autres articles qui sont sortis dans la littérature qui montrent le mélange entre Polynésiens et Amérindiens. Mais surtout, ça permet de dater ces mélanges. Parce que en fonction de la longueur des brins d'ADN amérindiens au milieu des ADN polynésiens, on peut dater de quand datent les mélanges. Et là, on date les mélanges avant la rencontre avec les Européens. Parce qu'avant, il y avait l'idée qu'il y avait eu des mélanges, mais qu'en fait, c'était peut-être les Portugais qui avaient amené des Amérindiens, par exemple, dans une île polynésienne ou dans l'île de Pâques, etc. C'est-à-dire que c'était des Amérindiens qui avaient été amenés par les Européens. Et là, on date sans contexte, de les mélanges avant l'arrivée des Européens. Ça montre bien les échanges qu'il y avait entre l'Amérique et la Polynésie, qui avaient déjà été montrés avec la patate douce, avec la poule, etc. Mais là, on le voit, quoi. On le voit directement dans leur ADN. Alors, c'est sûr que, bon, on a un petit regret, c'est qu'on n'arrive pas à voir exactement d'où en Amérique viennent les populations avec lesquelles ils se sont mélangés, premièrement. Deuxièmement, on ne sait pas dans quel sens le mélange a eu lieu. Alors, on ne sait pas si c'est des Amérindiens qui sont venus, qui se sont installés sur l'île de Pâques, ou des Polynésiens qui sont allés en Amérique, se sont mélangés, c'est-à-dire ont fait des descendants, qui sont revenus après dans l'île de Pâques. Bon, c'est vrai que nous, on a tendance à privilégier l'idée polynésienne tellement c'était des navigateurs exceptionnels, mais il y a peut-être des populations amérindiennes aussi qui étaient des excellents navigateurs.
Alors pour Jared Diamond, on revient à lui, ce métissage génétique observé est qualifié d'implausible. Il dit, cela impliquerait de nombreux voyages sur une route maritime longue et difficile, Evelyne Ayer.
Oui, non, ben bon, écoutez, c'est toujours facile de critiquer quelqu'un à 15 ans après avec plein de nouvelles techniques et de nouveaux outils, etc. Mais ça démontre au contraire qu'il y a toujours eu je dirais, un grand nombre d'échanges entre la Polynésie et les populations amérindiennes. Et d'ailleurs, ça ouvre quand même tout un champ intéressant en termes de discipline, parce que les autres travaux sur d'autres îles polynésiennes montrent une variabilité très forte d'une île à une autre, du mélange avec les populations amérindiennes. Et du coup, c'est particulièrement intéressant, parce que la troisième hypothèse, c'est que ce sont des gens déjà mélangés d'autres îles polynésiennes qui seraient venus en île de Pâques. On ne sait pas encore pour l'instant.
En tout cas, le vrai désastre, finalement, c'est la rencontre avec le monde extérieur, la montée de l'esclavagisme, les emports de maladies. C'est surtout ça qui a causé l'effondrement de cette île. On peut plus parler de génocide plutôt qu'écocide.
Oui, puis je pense... Bon, j'irai pas jusqu'à génocide, parce que dans le génocide, il y a quand même l'idée qu'on souhaite volontairement détruire l'autre, alors que là, on pense une grande décroissance de la population est due à l'arrivée de maladies, et c'était pas un souhait vraiment des individus que les populations de Polynésie, et notamment de l'île de Pâques, soient détruites, quoi.
Alors, quels sont les autres mystères qui restent à élucider sur l'île de Pâques? D'où viennent les premiers colonisateurs polynésiens? Et qu'est-ce que le rongo-rongo, l'écriture indéchiffrée originaire de Rapa Nui? Reste à l'écoute, on continue d'explorer l'île.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
En direct sur France Culture, nous sommes avec Evelyne d'ailleurs et Nicolas Co pour parler de Rapa Nui, l'île de Pâques. Parmi les nombreuses énigmes qui planent sur cette île, il y a celle d'une écriture retrouvée sur des tablettes en bois et qui est toujours à l'étude pour tenter de la déchiffrer. Quatre de ces tablettes sont exceptionnellement exposées en ce moment au musée du Quai Branly. Pour le reportage du jour, vous avez eu la chance de les découvrir de près dans la collection Océanie. Bonjour Céline Ozen.
Bonjour Natacha, oui, avec l'anthropologue Stéphanie Leclerc-Caffarel, également historienne de l'art, qui m'a présenté ce système d'écriture rongo-rongo sur quatre tablettes en bois. Une d'entre elles, nommée échancrée en raison de sa forme, est intéressante car les datations radiocarbone indiquent que son bois de Podocarpus latifolius est estimé à la fin du XVe siècle, ce qui laisse songer que l'écriture aurait pu exister avant l'arrivée des Européens. Et s'il en existe encore 27 dans le monde, aucune à ce jour n'a pu être déchiffrée parmi les 400 glyphes et 15 000 caractères.
Donc en fait, c'est 5 objets, 4 tablettes et un cordon en cheveux qui entourait une des tablettes à l'origine et qui fait partie un petit peu de l'énigme qu'il y a derrière ces objets. Donc je vais vous les présenter avec la vitrine que nous avons faite dans le cadre de ce prêt exceptionnel qui nous est fait par la congrégation des Sacré-Cœurs de Jésus et Marie, congrégation qui est basée à Rome.
C'est vraiment inouï quand on sait qu'il en reste 27, il me semble.
C'est ça, il y a une grosse vingtaine d'objets avec des glyphes rongo-rongo conservés au monde. Parmi les plus anciens, et en particulier la tablette que vous avez ici, qu'on a mis donc en position phare dans la vitrine, cette tablette qu'on appelle l'échancrée parce qu'elle présente des échancrures en fait, est la tablette la plus ancienne collectée, en tout cas pour cette congrégation.
Oui, les datations radiocarbone indiquent environ 15e siècle, contrairement aux autres qui elles sont plus récentes.
Toute fin du 15e, début du 16e siècle, donc effectivement autour de 1500, ce sont des datations très récentes qui ont été faites par l'université de Bologne en Italie au carbone 14. Alors l'échancrée, c'est une tablette, c'est une petite tablette, c'est un fragment en fait. Hein. On voit qu'elle a été brisée, on le voit très bien au revers, elle devait être beaucoup plus longue en Podocarpus. Donc c'est un bois qui, de façon très intéressante, n'est pas un bois qui pousse ou qui poussait sur l'île de Pâques.
Ah, puisqu'on sait qu'il est issu de quel continent?
Et je pense qu'il y a du Podocarpus en Polynésie, mais pas sur l'île de Pâques, pas de façon endémique. Et donc on est vraisemblablement ou possiblement face à un bois flotté. En tout cas, c'est une tablette qui est donc d'assez petite dimension par rapport à d'autres, qui est incomplète, qui présente beaucoup de caractéristiques très intéressantes. Et vous voyez ici, sur cette face qu'on considère être la face A, vous avez des glyphes qui sont superposés à d'autres formes. Il y a une petite zone, juste, vous voyez le petit montant du...
Ah oui, ils sont un peu imbriqués.
Ouais, comme si c'était un peu imbriqué. Alors ça, vraisemblablement, c'est très intéressant parce que c'est une correction de la part du scribe. C'est-à-dire qu'on dirait que le scribe a pré-tracé un texte, il avait oublié des glyphes dans la séquence, et donc il est revenu dessus, et les glyphes définitifs qui sont tracés ne correspondent pas au pré-tracé. Ça donne plusieurs indications, déjà sur le fait qu'on est vraiment sur un système de notation qui est précis. C'est la preuve qu'on est vraiment, véritablement, face à un système d'écriture. À l'île de Pâques, comme ailleurs, le bois est précieux. Et c'est un travail extrêmement long et fastidieux que d'écrire ces glyphes. Ce sont des savoirs qui sont aux mains de très peu de gens, en fait. Peu de gens connaissent les séquences de ces glyphes et savent les interpréter, les réciter et les chanter. Et qui est vraisemblablement aux mains d'experts, de spécialistes qui ont, de toute évidence, des fonctions rituelles.
Est-ce qu'on pourrait décrire vraiment ce qui caractérise cette symbolique ? On parle de glyphes, est-ce qu'on parle de système logosyllabique ?
Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'écriture. Donc
Parce que c'est des petits symboles, on voit des homonculums.
C'est des petits dessins, en fait.
Des petits dessins d'animaux.
Certaines personnes disent des pictogrammes, parce que ce sont des petits dessins. Le terme de glyphe est celui que je préfère, parce que c'est un terme qui est un peu plus généraliste, qu'on est vraiment sur quelque chose qui est inscrit dans la matérialité du bois, et donc ça recouvre différentes formes. Ce qui est assez bien établi et très intéressant pour le grand public en général, c'est la façon vraisemblable dont on lisait ces tablettes, mais a priori on ne lit pas comme nous en passant d'une ligne à l'autre, mais on lit avec un système qui s'appelle le boustrophédon, et en l'occurrence du boustrophédon inversé, c'est-à-dire que
le boustrophédon,
voilà, c'est ça. Le boustrophédon, c'est exactement ça, c'est comme le bœuf qui sillonne un champ, qui laboure un champ, et donc il faudrait revenir au bout de la ligne, repartir dans l'autre sens, sauf que là c'est du boustrophédon inversé, et qu'à chaque passage à la ligne suivante, on tourne la tablette de 180 degrés. Ça c'est très intéressant aussi parce que ça indique le fait que, à mesure que la personne, l'expert en rongo-rongo qui récite le texte inscrit sur la tablette ou qui restitue les informations qui sont inscrites sur la tablette, il y a une manipulation en même temps de l'objet, et ça va aussi dans le sens d'un usage rituel de l'objet. Alors il faut quand même que je vous dise un mot sur le cinquième objet qui nous est prêté, qui est cet étonnant cordon. Est-ce que vous savez en quoi c'est fait ?
C'est du tissu animal ou végétal ?
Alors c'est animal, Simon. Alors,
c'est un petit cordon, enfin un petit cordon, j'en ai aucune idée en plus.
Allez-y, je vous en prie, je vous laisse le décrire.
Alors oui, assez fin d'un diamètre
très
de
fin,
3 mm, un peu torsadé.
C'est ça, bah, c'est très bien. C'est un cordon, effectivement, d'une très grande finesse, torsadé. En fait, il y a deux matériaux que vous voyez apparaître ici. Il y a des cheveux humains. C'est évidemment le matériau principal de ce cordon qui fait 14 mètres de long, qui est, comme vous l'avez noté, d'une extrême finesse. Et puis, vous avez également un élément qui est en étoffe d'écorce battue. Alors, c'est vraiment le matériau textile, si j'ose dire, le plus important qu'on trouve dans le Pacifique où il y a très peu de pratiques de tissage. Là où c'est très intéressant, si vous voulez, c'est qu'au moment où l'échancrée est remise au missionnaire qui la collecte, au père missionnaire qui la collecte, elle est entourée de ce cordon de cheveux invraisemblablement long et fin. En l'occurrence, quand on a un objet comme le fragment de tablette qu'on appelle aujourd'hui l'échancrée, qui est enveloppé de 14 mètres d'un cordon de cheveux absolument inouï de finesse, on est vraisemblablement face à un objet qui a une importance considérable d'un point de vue culturel. Donc c'est pas négligeable, effectivement on a quatre tablettes rongo-rongo originales en prêt et ce cordon de cheveux qui est tout à fait important et qui nous apporte une autre clé de compréhension sur l'importance de ces tablettes qui portent les signes Rongo Rongo.
Merci Céline Lozen pour votre reportage. Nicolas Co, quels sont les mystères qui restent à élucider à propos de l'île de Pâques ?
Ce qui reste à élucider, à peu près tout de l'histoire, on est au début. Hein. Les reconstitutions historiques, ça n'a jamais de fin. Chaque nouvelle découverte pose de nouvelles questions. Par hasard, je suis tombé, après ça, ça n'a plus été un hasard, mais on est tombé sur ces monuments qui nous indiquent qu'il n'y a pas eu de destruction, pas d'éco-suicide, ainsi de suite. Mais du coup, les nouvelles questions, c'est pourquoi ont-ils renoncé à leurs ancêtres? Pourquoi ont-ils enfermé tout cela? Pourquoi ont-ils changé de stratégie? Et pourquoi y a-t-il un développement agricole, ça? Puis on a fouillé un nouveau site avec l'Institut archéologique allemand au centre de l'île, où on voit où, à l'époque réputée être celle de la destruction de la forêt, ces gens ont organisé des terrasses humides en barrant des vallées, en enterrant tout ça de sédiments et de dallages pour faire pousser des palmiers volontairement, donc des palmiers domestiques. Mais on est aussi aujourd'hui dans toute cette recherche pour montrer que l'île de Pâques est fondamentalement polynésienne. L'usage d'arbres sacrés se retrouve dans toutes les îles. On parlait des cheveux humains il y a un instant pour emballer cette tablette. Mais partout en Polynésie, le cheveu humain a une extrême importance. À Hawaï, les chefs ont des colliers faits de plus de 14 mètres de cheveux humains en fine tresse. Comme ça, c'est le même principe. Donc, on a de plus en plus maintenant d'éléments pour commencer à explorer l'île de Pâques, non plus parce que c'est un mystère, un fantasme, mais l'île de Pâques comme une île polynésienne dans la Polynésie. Et là, tout le travail il y a encore à faire.
Évelyne, d'ailleurs, vous nous disiez tout à l'heure que la question en suspens, une des questions en suspens, c'était avec quelle population en Amérique en particulier ces échanges génétiques ont-ils eu lieu? Comment résoudre ce mystère de ce métissage?
Alors, il nous faudrait plus d'échantillons amérindiens et peut-être plus d'échantillons à partir de restes humains, parce que du coup, on remonte plus à 200, 300, 400 ans, on remonte à avant le mélange avec les Européens et du coup on est plus précis pour pouvoir retracer une origine précise, que ça soit en Polynésie ou en Amérique. Ce qu'il y a d'absolument extraordinaire avec ces collections, c'est qu'on est finalement avant la période coloniale quelque part. Et du coup, on peut retracer l'histoire de ces populations avant l'extrême bouleversement lié à l'arrivée des Européens, que ça soit pour le lien entre l'île de Pâques et les Amérindiens, pour mieux savoir quels sont les Polynésiens qui ont colonisé l'île de Pâques. Donc c'est vraiment un matériau scientifique extraordinaire, sous réserve à chaque fois d'avoir l'accord des populations locales.
Alors ça aussi, quels sont les premiers Polynésiens à avoir colonisé l'île? C'est aussi comment s'y prendre?
Eh bien, il faut qu'on ait des échantillons dans d'autres îles pour pouvoir comparer, et du coup avec l'ADN on va pouvoir retracer d'où, de quelle île précisément viennent les Polynésiens qui sont arrivés dans l'île de Pâques. Donc en fait, on peut encore travailler sur cette question-là pendant des décennies.
Nicolas Coe, justement, sur cette question des premiers Polynésiens, ça va être compliqué parce que toutes les îles de Polynésie sont tout le temps restées en contact les unes avec les autres.
Oui, c'est bien ça le problème. L'archéologie est un peu dans une impasse. On sent bien que ces Polynésiens viennent d'un peu plus à l'ouest, à l'île de Pâques, qui arrivent à l'île de Pâques, mais on est dans un magma qui est à peu près ce qu'est la Polynésie française aujourd'hui, c'est-à-dire depuis les Marquises jusqu'aux îles Gambier, où il y a des échanges tout azimuts qui ont été démontrés maintenant, des herminettes, par exemple des haches en pierre échangées sur des grandes distances. Et donc, on fait des comparaisons archéologiques, on voit qu'on a des rapports avec tous ces différents niveaux d'îles, et ça sort de là quelque part. Et donc, c'est normal, ils sont en contact, donc effectivement, il y a déjà tout un mélange, un peu comme la génétique, on a des mélanges dans les objets qui sont échangés. Et donc, sans l'apport de la génétique, on n'aura pas de solution plus précise avec l'archéologie. Donc là, on a beaucoup d'espoir, ouais. Nous autres.
Avec les données génétiques, on peut normalement, ça fait partie des questions où vraiment la génétique a un plus par rapport à qu'elle peut amener pour les questions d'archéologie, quoi.
Oui, ça veut vraiment dire que la génétique et l'archéologie travaillent main dans la main aujourd'hui sur ces questions-là.
Ah, bah oui.
Définitivement. Oui, tout ce qui s'est passé, y compris dans les notions d'évolution de l'humanité et tout, la génétique, aujourd'hui, si on ne la fait pas, c'est fini. On est à côté de la plaque.
Ce sera le mot de la fin, une très belle conclusion pour cette émission. Dans quelques secondes, on va retrouver la chronique d'Alexandra Delbaume. Mais merci beaucoup, Evelyne Ayer. Merci. Merci, Nicolas Coe. Et puis, donc, tout de suite, un tout autre sujet. Comment les nourrissons apprennent-ils le langage? C'est la chronique Avec Science.
Quel est le rôle de l'attention dans l'apprentissage de la langue chez les bébés? Ce que l'on sait, c'est que cela commence très tôt, avec d'abord l'audition. Entendre la langue constitue la première étape pour se familiariser avec les sonorités. Et ça se met en place même avant la naissance. L'ouïe des bébés se développe à partir du troisième trimestre de la grossesse. L'apprentissage de la langue démarre donc bien avant que les bébés ne parlent. Et contrairement à une idée très répandue, il semble que ça ne soit pas du tout un phénomène passif. Louise Goupil est chercheuse CNRS au laboratoire de psychologie et neurocognition à l'université Grenoble-Alpes et première autrice de cette étude parue dans PNAS.
On a tendance à vraiment étudier l'acquisition du langage souvent et puis à parler de l'acquisition du langage même dans le langage courant, etc., comme quelque chose qui serait relativement passif, avec en fait les nourrissons qui seraient là et qui absorberaient comme des petites éponges la langue et ce serait ça le mécanisme d'apprentissage. Et en fait, de plus en plus, on est mal de chercheurs et de chercheuses à faire des études maintenant qui montrent qu'en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est-à-dire que les nourrissons, ils sont déjà très actifs. Les parents, en fait, quand ils interagissent avec leurs nourrissons et puis toutes les personnes, en fait, qui interagissent avec des nourrissons ont tendance à ajuster la manière dont ils parlent en fonction de ce que font les bébés. Donc, par exemple, si vous promenez dans la rue avec votre enfant et que votre enfant se regarde de manière intense un chien ou un chat, ça arrive très souvent, bah, vous allez très souvent dire « Ah, regarde le chien, regarde le chat », etc. Et en fait, donc, quand vous avez dit ça, ce que vous avez dit, c'est indexé sur ce qu'a fait le nourrisson juste avant. Donc ça montre, ce genre de situation suggère en tout cas que, en fait, les jeunes enfants sont actifs et qui façonnent, en fait, la transmission linguistique. Et que donc, en fait, le mécanisme d'acquisition du lexique, il n'est pas du tout passif et qu'ils ne sont pas en train simplement d'absorber de l'information. Mais c'est-à-dire qu'ils participent, en fait.
Les bébés sont donc actifs. Ils regardent de manière intense certains objets. Mais quel est le rôle de cette attention dans l'apprentissage de nouveaux mots? Que se passe-t-il dans le cerveau des bébés pour qu'ils associent le nom et l'objet et qu'ils le cataloguent dans leur mémoire? C'est ce qu'a voulu étudier cette nouvelle étude en se servant de bébés comme cobayes. Cela se fait souvent, mais pas n'importe où. Dans des structures qu'on appelle des baby labs, il y en a plusieurs en France, à Paris ou en Île-de-France, à Lyon, Grenoble ou encore Aix-en-Provence. Les scientifiques proposent aux parents de venir avec leur progéniture pour faire des jeux. En l'occurrence, il s'agit de montrer à l'enfant des objets qu'il connaît ou non, des peluches par exemple en forme de chat, de phoque ou de piment. Et pendant ce jeu, les 38 petits cobayes d'un peu plus d'un an sont équipés d'un électroencéphalogramme. C'est simplement un casque muni de plein d'électrodes pour mesurer leur activité cérébrale et donc leur attention. L'objectif est de déterminer quel est le rôle de l'attention dans la mémoire de ces noms. Résultat, le regard des bébés est corrélé à l'activité cérébrale. Nommer un objet précisément à ce moment-là permet à l'enfant de mieux le retenir.
Quand les parents ont plutôt tendance à suivre l'intérêt de leur nourrisson, c'est-à-dire de quand le nourrisson s'intéresse au phoque, jouer avec le phoque et nommer le phoque, et ben en fait on a trouvé que les nourrissons par la suite ont mieux retenu en fait le nom du nouvel objet, donc ils ont mieux retenu que le nouvel animal s'appelle un phoque. Et donc c'est congruent avec d'autres études qui commencent à vraiment nous donner des fortes raisons de penser que les nourrissons déjà à cet âge-là, donc avant 2 ans, entre, disons, vers la fin de la première année de vie et pendant toute la, probablement la deuxième année, commencent à vraiment produire des actions, en fait, et interagir avec des choses autour d'eux qui les intéressent, plus ou moins, et que ça va façonner, en fait, le type d'information linguistique qu'on va leur donner. Et que donc, on peut dire, en fait, de manière plus large, que ça veut dire que, en fait, les nourrissons façonnent la transmission linguistique, et en fait, ils façonnent le type de mots qu'on va leur adresser en fonction de ce qu'ils font.
L'attention de l'enfant dirige donc celle de l'adulte pour apprendre plus vite et donc mieux. Il faudrait à présent renouveler ses expériences sur des nouveaux-nés d'autres cultures. Ici, ce sont des petites et petits londoniens de East London, des familles de classe moyenne à supérieure qui ont souvent la même façon d'interagir avec leur bébé. Diversifier les petits cobayes permettrait donc de mieux saisir l'universalité de cet apprentissage. L'autre poursuite de ces travaux, ce sera de comprendre ce qui motive cette attention accrue. Est-ce du simple intérêt, c'est nouveau, ça m'intéresse, ou est-ce de la curiosité, quelque chose de plus épistémique, comme une réelle envie d'apprendre ce qu'est ce nouvel objet avec toutes ses propriétés et ses caractéristiques.
Merci Alexandra pour votre chronique. Elle est à retrouver comme chaque jour sur le site de franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Alexandre Morales, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation, Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Jordan Fuentes. Vous pouvez nous écouter partout en podcast à toute heure et nous suivre sur Twitter, chiche @sciencesqfd. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.